Les systèmes thermodynamiques auxquels nous nous intéressons peuvent être caractérisés par la donnée de deux variables d'état. On dit qu'ils sont bivariants. Cela signifie que leurs propriétés thermodynamiques peuvent être représentées graphiquement dans un plan sous forme de diagramme thermodynamique. En mettant en évidence les évolutions de référence des transformations subies par les fluides et en permettant de les calculer au moins de manière approximative, les diagrammes font partie des outils de base du thermodynamicien. Leur intérêt est double. Permettre de représenter graphiquement les cycles et fournir une estimation de l'état thermodynamique des différents points du cycle. Du fait des possibilités offertes par les logiciels de calcul des propriétés des fluides, qui sont de plus en plus répandues, le second intérêt a tendance à diminuer, tandis que le premier conserve toute son actualité. Visualiser sur un diagramme un cycle calculé à l'aide d'un outil informatisé permet notamment de s'assurer qu'il ne comporte pas de points aberrants dus à une erreur lors de l'entrée des données. Un diagramme se présente sous forme d'un graphique plan comportant le tracé d'un certain nombre de courbes remarquables, notamment des familles d'isovaleurs des fonctions d'état. Nous avons vu que les grandeurs les plus intéressantes sur le plan pratique sont T, P, H, et des informations complémentaires sur X et V peuvent être nécessaires. C'est donc parmi les trois premières que sont choisies les abscisses et les ordonnées des diagrammes que nous pouvons considérer, étant donné que nous excluons ici l'entropie. Le couple température-enthalpie est rarement retenu, car les isobares et les adiabatiques réversibles y sont représentés par des courbes présentant des points d'inflexion qui en rendent l'usage délicat. De plus, les variations de T et H sont proportionnelles lorsque le fluide suit la loi des gaz parfaits. Sauf pour les gaz permanents, c'est-à-dire ceux dont l'état est très éloigné de leurs conditions de saturation, le couple température-pression est insuffisant, car T et P sont liés par la loi de pression saturante dans la zone d'équilibre liquide-vapeur. Il serait en revanche tout à fait utilisable pour représenter le cycle de la turbine à gaz. Le couple PH est de plus en plus employé. Il correspond au diagramme dit des frigoristes parce que ce sont eux qui en ont généralisé l'usage. C'est celui que nous étudierons dans ce cours. Enfin, le couple PV, diagramme dit de Clapeyron, présente un intérêt pédagogique certain, surtout pour l'étude des transformations en système fermé. Son inconvénient principal est sa faible lisibilité, la zone des vapeurs étant réduite et les fonctions énergétiques n'apparaissant pas directement. Dans le diagramme dit des frigoristes, on porte en abscisse l'enthalpie et en ordonnée la pression, le plus souvent selon une échelle logarithmique, afin que la zone correspondant aux basses pressions soit plus lisible. Il s'agit d'un simple changement d'échelle et vous n'avez pas besoin de maîtriser la notion de logarithme pour l'utiliser. Une piste d'approfondissement vous donnera quelques indications sur ce sujet si vous le souhaitez. Pour construire ce diagramme, on commence par y tracer la courbe de saturation. Son sommet correspond au point critique C. La partie gauche, ascendante, présente l'ébullition commençante. On parle aussi de courbe de bulle, car c'est sur cette courbe que la première bulle apparaît quand on chauffe le liquide. Sa partie droite, descendante, représente la vapeur saturée. On parle aussi de courbe de rosée, car c'est sur cette courbe que la première goutte de rosée apparaît quand on refroidit la vapeur. Je vous rappelle que le point critique représente l'état où la phase de vapeur pure a les mêmes propriétés que la phase de liquide pur. Sous la courbe de saturation se trouve le domaine de l'équilibre diphasique liquide-vapeur. À gauche de cette courbe se situe la zone du liquide pur. À droite se situe la zone de la vapeur ou du gaz. En bas à droite du diagramme, pour les faibles pressions et les grandes enthalpies, et donc les hautes températures, on s'éloigne de la zone d'équilibre liquide-vapeur et le comportement du fluide se rapproche de celui du gaz idéal. Pour que ce diagramme soit utilisable, on y représente des faisceaux de courbes prédéfinis correspondant aux adiabatiques réversibles, aux isothermes, aux isovolumes et, dans la zone mixte, aux courbes d'isotitres. Dans la zone liquide, à gauche du diagramme, les isothermes ont une pente négative très forte, car la compression d'un liquide met en jeu un travail très faible. Dans le domaine diphasique, la pression et la température sont liées par la loi de pression saturante et les isothermes sont horizontales. L'enthalpie croît énormément, correspondant à la chaleur latente de vaporisation qu'il faut fournir au fluide. Un échauffement ou un refroidissement isobare se traduit dans ce diagramme par un segment horizontal, une détente sans travail isenthalpique par un segment vertical. Une adiabatique réversible est une courbe ascendante dont la pente est égale à l'inverse du volume massique. Elles sont donc beaucoup moins inclinées dans la zone vapeur que dans la zone liquide. Dans la zone située à droite de la courbe de vaporisation, les isothermes sont des courbes descendantes qui se rapprochent de verticales pour les valeurs des faibles pressions. En effet, le comportement de la vapeur se rapproche alors de celui d'un gaz idéal dont l'enthalpie ne dépend que de la température. Les courbes d'isotitres sont ascendantes et se rejoignent au point critique. Voici le diagramme des frigoristes de l'eau. Le zéro des enthalpies se situe à l'état liquide sur la courbe de saturation à 0 degré Celsius. On y retrouve bien les courbes présentées précédemment. Les isothermes sont tracés en bleu, les isotitres à l'intérieur de la courbe d'équilibre liquide-vapeur sont en magenta et les adiabatiques réversibles sont en rouge. Voici le diagramme des frigoristes du frigorigène R134A. On peut aussi tracer le diagramme H-log2P des gaz idéaux, bien que ce ne soit pas un diagramme couramment utilisé. Dans ce diagramme, qui correspond à l'air, assimilable à un gaz idéal, les isothermes sont verticales, les isovolumes et les adiabatiques réversibles, plus pentues, étant des courbes à concavité tournées vers le bas. On retrouve bien l'allure de la partie inférieure droite des diagrammes précédents. Si on trace ce diagramme en coordonnées non logarithmiques, les isovolumes sont des droites et la concavité des adiabatiques réversibles est orientée vers le haut.